cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. N'hésitez pas à nous soutenir, de nombreux livres sont à votre disposition contre un don que vous pouvez faire à notre radio associative. Vous pouvez recevoir un ouvrage grâce à un de nos partenaires, les éditions Fayard, les éditions Talendier ou les éditions Perrin. Pour ce faire, rendez-vous donc dans la rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Nous entamons aujourd'hui le deuxième volet de la série de nos cours d'histoire médiévale consacrée donc à la thématique « Le pouvoir de l'Église » et donc bien évidemment le pouvoir de l'Église et des papes, puisque les papes constituent le gouvernement de l'Église catholique. Nous avons vu la semaine dernière ce qu'il en était de la distinction, qui est une distinction très originale dans le monde des religions, la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et on peut dire que la crise entre ces deux pouvoirs est arrivée à son paroxysme à un moment bien déterminant de notre histoire, que ce qu'on appelle la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, le terme date du début du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons, il a été utilisé par un historien dont le nom m'échappe.
XIXe siècle.
Oui. Mais n'était-ce pas une révolution? C'est ce que nous allons voir avec Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir à notre micro. Vous êtes historien, spécialiste, en tous les cas, d'histoire médiévale. Nous avons réalisé une émission sur le Bureau des âmes, sur la pénitencerie apostolique, qui est disponible dans nos archives, et vous êtes venu nous parler donc de cette réforme grégorienne. Commençons simplement, qu'est-ce que la réforme grégorienne? Quand intervient-elle et pourquoi mettre une majuscule au terme de réforme?
Il s'agit sans doute de l'événement le plus important du Moyen-Âge occidental, dans la mesure où cette réforme se trouve à l'origine vraiment des principales transformations politiques, sociales, culturelles des quatre derniers siècles du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment un moment de rupture, un moment de bascule, même si en soi il s'agit bel et bien, en tout cas au départ, il s'agit d'une réforme de l'Église, hein, mais dont les répercussions ont été bien plus vastes. La majuscule montre d'ailleurs qu'on continue d'employer, hein, la majuscule montre d'ailleurs qu'il s'agit d'un concept historiographique, hein, enfin que l'on doit aux historiens, mais c'est un concept que les historiens aujourd'hui tendent justement à remettre en cause. Alors déjà depuis quelques années, voire quelques décennies, hein, certains historiens proposent plutôt de parler de révolution.
Parce qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après.
Exactement, exactement.
Il y a l'idée de, non pas table rase, mais en tous les cas de reconstruction d'un nouveau monde.
Oui, exactement, et de réorganisation, notamment de réorganisation et de restructuration du clergé, mais aussi plus largement de la société dans son ensemble. Alors certains historiens ont d'abord parlé de révolution pontificale, d'autres ensuite ont parlé de révolution culturelle, et aujourd'hui on tend même à parler d'une révolution totale.
Donc le terme de réforme, je crois qu'il est d'Augustin Flich, si mes souvenirs sont bons.
Oui, tout à fait.
Est un peu relégué au profit de cette révolution. D'où vient cette réforme? D'où vient cette révolution? Quelles en sont les raisons contextuelles, mais aussi plus structurelles? Et surtout, quels sont les hommes de cette réforme? Quels sont les inspirateurs de cette réforme?
Alors, vous l'avez compris, hein, deux termes dans réforme grégorienne, et le deuxième terme, cet adjectif de grégorien, tire son nom du pape Grégoire VII, hein, qui en a été l'un des principaux promoteurs. Mais en réalité, cette réforme, elle commence un peu avant, elle est antérieure à Grégoire VII, et il faut souligner alors le rôle de multiples acteurs, mais dont celui de l'empereur, qui, en réalité, dès la fin du Xe siècle, l'empereur s'emploie à lutter contre la corruption et contre la mainmise de certains laïcs sur certaines charges ecclésiastiques. Donc l'empereur a été un acteur, en réalité, de cette réforme. Les acteurs principaux, ce sont bien sûr les papes à partir du milieu du XIe siècle. Des papes qui d'ailleurs ont souvent été, enfin pour le premier d'entre eux au moins, hein, Léon IX, a été placé par l'empereur sur le trône pontifical. Et va s'en suivre une succession de papes réformateurs. Des papes réformateurs qui s'entourent de personnalités elles-mêmes très marquantes, des personnalités réformatrices. Par exemple, Pierre d'Amiens, qui est devenu cardinal, mais qui a longtemps été un ermite hein, dans la région des Marches, et qui lui veut assainir le clergé et purifier les mœurs du clergé.
C'est-à-dire que il y a à la fois cette notion de pouvoir qui est à réformer, à définir quel pouvoir dans l'Église, mais aussi une réforme, pour le coup, des mœurs, une réforme intérieure de l'Église.
Exactement, une réforme de la discipline, disons, une réforme de la discipline ecclésiastique qui est l'un des aspects, ou l'aspect d'ailleurs le mieux connu de cette réforme. Là, il faut souligner le rôle très important qu'ont joué les moines, et plus particulièrement les moines de Cluny. Alors, on sait, par exemple, que certains papes réformateurs, justement, sont passés soit par Cluny directement, c'est le cas, par exemple, d'Urbain II, hein, le fameux pape qui lancera l'appel à la première croisade en 1095, c'est un ancien moine clunisien. Grégoire VII lui-même a été formé, en partie, dans une abbaye clunisienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous ces hommes-là, ou en tout cas une partie d'entre eux, est très influencée par le modèle de vie monastique. Et qu'il y a cette volonté, par conséquent, d'appliquer le mode de vie, voire la forme de vie monastique, reposant tout particulièrement sur la chasteté, eh bien, il a la volonté d'appliquer cette forme de vie, ou ce mode de vie, au clergé séculier, donc de réformer le clergé séculier dans ce sens-là.
Je renvoie nos auditeurs à cette excellente émission que nous avons enregistrée ensemble sur le pouvoir des moines, quand les moines dominaient le monde, qui fait l'émission qui fait elle-même partie d'une autre série sur la chrétienté médiévale. Revenons à la réforme Arnaud Fossier. On imagine que cette réforme, eh bien, elle a rencontré des oppositions de la part de l'empereur, mais pas seulement, de la part des rois, de la part des princes, tant au niveau local qu'au niveau global, même si le terme n'est pas forcément...
Bien sûr, alors la réforme a d'abord rencontré des oppositions au sein de l'Église elle-même. Hein. Là aussi, il ne faut pas avoir évidemment une vision trop homogène de cette réforme où tous auraient été absolument d'accord. En réalité, les historiens ont bien montré et travaillent en ce moment là-dessus, justement, sur le très grand nombre de controverses qui ont agité l'Église à ce moment-là. Tous n'avaient pas la même vision de ce qu'il fallait faire pour lutter contre la corruption, la simonie notamment, donc la vente ou l'achat des charges ecclésiastiques, lutter contre aussi le concubinage ou le mariage des clercs, etc. Ensuite, certains clercs, une partie du clergé séculier, souvent un clergé d'ailleurs qui se sent loin de Rome et loin de la centralité romaine, certains clercs sont absolument furieux que des conciles qu'ils jugent lointains, loin de leurs préoccupations en quelque sorte, que des conciles ou des légats du pape leur dictent une nouvelle conduite, leur dictent une conduite qui consiste bien souvent à chasser leurs concubines ou à chasser leurs épouses. Des textes bien connus, alors là je cite un ouvrage assez récent qui est très intéressant là-dessus, l'ouvrage d'une américaine qui s'appelle Jennifer Thibodeau, et qui montre que plusieurs traités de défense du mariage des clercs voient le jour à ce moment-là. Hein. Pour lutter contre les ambitions réformatrices, les ambitions des réformateurs grégoriens, beaucoup de clercs, dans le milieu normand, dans la région normande notamment, vont se mettre à écrire des traités de défense du mariage des clercs. Et puis, évidemment, le deuxième type d'opposition, c'est ce que vous disiez, le deuxième type d'opposition, il vient de l'empereur et des autres princes, mais surtout de l'empereur qui devient un farouche adversaire de la réforme grégorienne dans les années 1070. Là aussi, ce sont des aspects assez bien connus. C'est ce qu'on a appelé, enfin, une partie de cette lutte qui oppose l'empereur et le pape concerne ce qu'on a appelé la querelle des investitures, c'est-à-dire, enfin, qui portait cette querelle portée sur sur la nomination et la consécration des évêques. Qui avait le droit de nommer et de consacrer les évêques ? Donc, pas un enjeu mince au sens où toute la hiérarchie ecclésiastique, en quelque sorte, était engagée par ce problème.
Est-ce qu'on peut dire que cette réforme consiste en une affirmation inédite du pouvoir pontifical ? Peut-on parler du coup de théocratie pontificale, un terme qu'on a déjà utilisé lors de la précédente émission ?
Oui, puisque clairement, à l'épreuve justement de son conflit avec l'empereur, que je mentionnais à l'instant, à l'épreuve de ce conflit, il est clair que le pape a renforcé son autorité et qu'il s'est même doté, on en parlait lors de la précédente émission, il s'est même doté d'une nouvelle doctrine en la matière, une doctrine qui fait de lui le vicaire du Christ sur terre. Et puis, un peu plus tard, alors ça, ce sont les effets collatéraux de la... Enfin, pas tant collatéraux que ça, d'ailleurs, de la réforme grégorienne, mais un siècle plus tard, Innocent III, lui, fera de ce qu'il appelle après d'autres la plénitude de puissance, il en fait son attribut singulier, c'est-à-dire il considère que son pouvoir est incommensurable avec celui, notamment avec celui des autres évêques. Outre cette volonté finalement d'instituer une théocratie, ce qui est marquant, c'est plus la manière dont la papauté devient à ce moment-là une monarchie. Les historiens aujourd'hui d'ailleurs préfèrent parler de monarchie pontificale que de théocratie pontificale. La monarchie pontificale, elle passe par l'institution de la libre élection du pape par le collège des cardinaux, chose dont on a évidemment hérité aujourd'hui. Ça, c'est en 1059 que cette libre élection du pape par les cardinaux est instaurée. Et puis, elle passe aussi, cette monarchie pontificale, une monarchie donc très très centralisée, qui contribue à centraliser l'Église, elle passe aussi par la création d'une administration centrale, qu'on appelle la curie, hein, composée notamment d'une chancellerie et puis d'une chambre, c'est-à-dire une chambre des comptes, une chambre qui a une fonction très trésorière. Donc, c'est tous ces aspects-là de gouvernement et d'administration qui sont derrière cette expression de monarchie pontificale que les historiens aujourd'hui tendent à privilégier.
Alors, nous n'avons pas évoqué le texte des Dictatus Papae de Grégoire VII. Ouais. On sait que Boniface VIII, en face de Philippe le Bel, va produire plusieurs textes visant à affirmer le pouvoir des papes, cette monarchie pontificale. Mm-hmm. Est-ce que ce ne sont pas que des textes, finalement ? Est-ce que cette théocratie pontificale ou cette monarchie pontificale n'est-elle pas surévaluée par les textes ? Et dans la réalité, nous sommes dans une situation autre, comme le prouve par exemple l'humiliation de Boniface VIII contre Philippe le Bel.
Alors, pas vraiment tout de même, parce que si on pense par exemple au Dictatus Papae que vous venez de mentionner, qui est donc ce manifeste, pour le coup, ce manifeste théocratique, ce manifeste de théocratie écrit par Grégoire VII, ce texte, il enclenche quand même un certain nombre de décisions et de pratiques du pouvoir même, donc avec une certaine régularité. Parmi ces décisions fortes que prend le pape, celle tout de même d'excommunier l'empereur et donc de délier tous les sujets de l'Empire de leur serment de fidélité vis-à-vis de l'empereur. Donc il y a quand même derrière des actions très fortes qui sont enclenchées. Il en va de même bien plus tard, enfin deux siècles plus tard, effectivement, avec Boniface VIII. Cette fameuse bulle, la bulle Unam Sanctam, qui consiste à reproclamer la supériorité absolue du pape, du pouvoir pontifical sur les pouvoirs temporels et notamment sur le pouvoir de Philippe le Bel, là aussi, elle donne lieu à un certain nombre de mesures et de dispositions très concrètes qui consistent pour le pape à faire jouer, à rendre effectif son pouvoir.
Est-ce qu'il s'agit d'une réforme de la tête uniquement, in capite, comme on dit en latin, ou est-ce que ces effets se font sentir au niveau local, au niveau des régions, que ce soit de l'Empire, mais aussi des différentes monarchies.
Bien sûr. Alors, il a fallu attendre, là, pour le coup, un certain renouveau historiographique ces dernières décennies. C'est quelque chose qui, justement, n'avait pas été vu dans la première moitié du XXe siècle par les historiens, c'est-à-dire le fait que la réforme grégorienne a eu des effets considérables sur la structuration et l'organisation de l'Église, y compris à l'échelle locale. On assiste, dans la foulée de cette réforme, ou dans le contexte de cette réforme, à une multiplication des paroisses, à ce que les historiens appellent aussi la territorialisation de l'Église. Et puis, la principale conséquence de la réforme, c'est l'accroissement de la puissance des seigneuries ecclésiastiques. Les seigneuries ecclésiastiques s'en trouvent renforcées. Un peu partout, les évêques, par exemple, vont développer, au XIIe siècle, les évêques développent leur assise seigneuriale dans les campagnes. Ils élargissent leur clientèle féodale en France, en Italie, ils font bâtir des châteaux, ils se dotent également d'appareils administratifs à leur tour, à l'image du pape, ils se dotent de chancelleries, de nombreux évêques, ce qui est un signe d'indépendance qui n'est pas anodin, de nombreux évêques commencent à se doter d'un sceau qui leur est propre. Ça, c'est un élément matériel aussi qui
d'affirmation d'identité.
D'affirmation d'identité, d'affirmation de son pouvoir propre.
Alors, pour finir, comment évoluent les rapports entre le clergé et les fidèles? Est-ce que les fidèles restent loin de toute cette querelle de pouvoir, de toute cette querelle, non pas administrative, mais juridique, ou au contraire, ressentent-ils dans leur quotidien cette réforme?
Alors, c'est là que certains historiens, du coup, vont jusqu'à parler de révolution culturelle, parce que, précisément, la réforme grégorienne n'a pas fait que concerner le clergé, au contraire, elle a également touché les laïcs, ne serait-ce que parce que, finalement, le principal effet de cette réforme, c'est de renforcer la dualité très claire entre les laïcs et le clergé. C'est-à-dire que cette réforme, elle a contribué à sacraliser le clergé et à faire de l'Église, dans son ensemble, à faire de l'Église une institution séparée de la société, une institution strictement hiérarchisée, séparée de la société. Cette transformation, évidemment, on se doute que ça va avoir des effets sur les laïcs, cette transformation de l'Église en une institution. Autrefois, disons que auparavant l'Église était une assemblée dans laquelle se retrouvaient le clergé et les laïcs, désormais l'Église s'apparente à une institution à part entière. Cette transformation de l'Église va susciter un certain nombre de frustrations chez les laïcs, de frustrations d'ordre spirituel notamment, des frustrations chez les laïcs, et alors pas chez tous les laïcs, mais notamment dans les nouvelles classes ou les nouveaux groupes sociaux citadins, ces nouvelles classes citadines qui commencent à s'alphabétiser, qui disposent de ressources culturelles et symboliques de plus en plus fortes pour s'approprier la religion, pour avoir un désir propre et autonome de religion. Et qu'est-ce que l'Église va faire face à ces attentes et à ces aspirations des laïcs qui se sont renforcées? Eh bien, elle va en quelque sorte, mais elle va les stigmatiser et les catégoriser comme hérésie. En réalité, ces mouvements de laïcs qui veulent se passer, qui pour certains veulent se passer de la médiation cléricale et de la médiation sacerdotale, qui veulent accéder par eux-mêmes aux textes religieux et qui rejettent en partie les sacrements de l'Église, ces mouvances laïques, l'Église, à partir du milieu du XIIe siècle, ou même un peu avant, commence à catégoriser ces mouvements comme des hérésies, et la répression ne fera qu'aller en s'accentuant dans la seconde moitié du XIIe siècle, et puis évidemment au XIIIe siècle avec l'Inquisition, qui est un office voué à la répression, des hérésies.
Mais est-ce que ces groupes de laïcs, malgré tout, l'Église, tout en les canalisant, va leur permettre une forme d'expansion? On pense à Saint François, qu'on pourra évoquer aussi la semaine prochaine avec Innocent III.
Tout à fait. C'est plus qu'un paradoxe. C'est l'une des ambiguïtés, en fait, de l'Église de ce temps-là. C'est-à-dire que quand elle parvient, notamment quand l'institution pontificale parvient à récupérer certains de ces mouvements qui sont des mouvements qu'on appelle des mouvements évangéliques. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent revenir à un mode de vie qui est celui...
Pureté évangélique.
Voilà, la pureté évangélique et revenir...
Reformer.
Exactement. Eh bien, quand l'institution pontificale parvient à récupérer ces mouvements comme elle le fait, effectivement, avec Saint François et avec le franciscanisme, en authentifiant par une bulle la règle de vie que Saint François a proposé à ses frères. Bon, quand elle parvient à récupérer ses mouvements, là, effectivement, il n'y a pas de politique répressive. En revanche, pour tous les autres, mais la frontière est très mince, finalement, entre ces mouvements qui sont reconnus et légitimés, et puis d'autres qui, au contraire, vont être stigmatisés et réprimés.
Saint François, donc, avec Innocent III, nous en parlerons, Arnaud Fossier, la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'était un nouveau cours d'histoire, donc, consacré au pouvoir de l'Église et au pouvoir des papes, la réforme grégorienne. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos cours d'histoire.